Merci d'écouter RFI. Il est 10h à Paris, midi à Istanbul.
Gaëtan Plenet.
Istanbul, où l'opposition turque organise un grand rassemblement ce samedi. Nouvelle démonstration de force 10 jours après l'arrestation du maire Ekrem İmamoğlu. Des recherches en cours sous les décombres en Birmanie et en Thaïlande pour tenter de retrouver des disparus après l'effondrement de bâtiments. La terre a tremblé fort hier dans ces deux pays. Au Liban, c'est désert qu'est venue la menace. Les bombardements israéliens ont repris dans la banlieue sud de Beyrouth, l'un des fiefs du Hezbollah. Et puis en Guinée, une grâce présidentielle pour Moussa Dadis Camara. Celui qui a dirigé le pays entre 2008 et 2009 avait été condamné en juillet dernier à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. En Turquie, 10 jours après l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, la colère de l'opposition ne retombe pas, pour elle aucun doute. C'est une manœuvre des autorités pour barrer la route à celui qui s'imposait comme le favori pour la prochaine présidentielle. Depuis son incarcération, il y a eu de nombreuses manifestations, puis une courte pause de quelques jours. Mais ça reprend aujourd'hui et l'opposition attend beaucoup de monde. On vous retrouve en direct d'Istanbul, Daniel Valo. Vous êtes notre envoyé spécial. Vous êtes aux abords de la manifestation qui doit débuter d'un instant à l'autre.
Oui, je me trouve à l'entrée du parc où sont rassemblés les manifestants, des manifestants qui continuent d'ailleurs de converger vers le lieu de rassemblement par petits cortèges de dizaines, de centaines de personnes avec des chasubles rouges et blanches, les couleurs nationales, le drapeau de la Turquie également, et ça et là des portraits d'Ikrem İmamoğlu et de Mustafa Kemal, fondateur de la République turque, mais aussi du CHP, le parti du maire déchu d'Istanbul. Le CHP qui veut donc faire de cette manifestation une démonstration de force face à Recep Tayyip Erdogan, le président turc, mais qui a voulu changer de stratégie en appelant à manifester non pas devant la mairie d'Istanbul, mais dans ce parc du côté asiatique de la ville, dans l'espoir d'éviter de nouveaux affrontements avec les forces de police et les arrestations massives qui ont eu lieu dans le courant de la semaine. Objectif donc, maintenir la pression de la rue et inscrire ce mouvement dans la durée sans donner de prétexte aux autorités pour accroître encore la répression du mouvement, sachant que du côté des autorités, eh bien, c'est clairement l'option répressive qui a été choisi cette semaine avec cette volonté d'intimider les partisans d'Ekrem İmamoğlu. Le CHP espère donc à la fois une très forte affluence aujourd'hui et aussi que ce rassemblement se déroule dans le calme en attendant bien sûr les prochaines étapes de la mobilisation.
Et on suivra ça avec vous. Merci Daniel Valo, envoyé spécial de RFI à Istanbul avec Bertrand Eclair au moyen technique. Un avion militaire indien en route pour la Birmanie. À son bord, une équipe médicale, une autre de recherche et de secours, mais aussi de la nourriture et des couvertures. New Delhi répond ainsi à l'appel à l'aide internationale lancé par la junte birmane après le violent séisme d'hier. Il a fait au moins 1000 morts. Mais selon l'Institut géologique américain, le nombre de victimes pourrait en réalité être situé entre 10 000 et 100 000. Et ça va coûter très cher, prévient ce même institut, peut-être plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ça pourrait même dépasser le PIB de la Birmanie. La Thaïlande, elle aussi, a été touchée par ce séisme, bien qu'a priori moins durement que la Birmanie. À Bangkok, des dizaines d'ouvriers sont toujours piégés sous les décombres d'un immeuble en construction de 30 étages. L'effondrement a beaucoup choqué les habitants. La vidéo a fait le tour du monde. Patrick Coulombel est le cofondateur de la fondation Architecte de l'Urgence.
D'une manière générale, quand on fait des immeubles de grande hauteur, donc ce sont des gens, ce sont des firmes qui ont une habitude de faire en termes de conception, mais même des entreprises, ils ont l'habitude de faire des bâtiments d'une hauteur comme celle-là. Il y a quand même une remarque importante, c'est qu'il n'y a a priori pas d'autres bâtiments de grande hauteur qui sont tombés, donc c'est bien une conséquence du fait que le bâtiment était en construction. Et le fait qu'il soit en construction, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est tombé, très très probablement. Et d'une manière générale, les constructions qui sont faites de bâtiments de grande hauteur sont aujourd'hui faites de manière avec des réglementations qui font que globalement ils résistent à des séismes, surtout comme celui-là, dans une zone, à savoir en Thaïlande, qui n'est pas réputée comme sismique autant que la Birmanie ou l'Indonésie à côté.
Des propos recueillis par Christina Petkova. C'est une image que l'on n'avait plus vue dans la banlieue sud de Beyrouth depuis le 27 novembre dernier, depuis en fait l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Un épais nuage noir s'élevant hier au-dessus d'un quartier, celui de Hadat, conséquence d'un bombardement de l'armée israélienne qui prévient que de nouvelles frappes pourraient avoir lieu. Elle dit avoir agi en représailles à des tirs de roquettes sur la Galilée lancés depuis le territoire libanais. Pour Israël, ça porte le sceau du Hezbollah, qui pourtant nie en être à l'origine. Correspondance à Beyrouth de Paul Ralifé.
Le Hezbollah a été le premier à réagir aux tirs de roquettes depuis le Liban Sud vers la Galilée. Le parti chiite a affirmé qu'il n'était pas impliqué dans cet incident et a réitéré son engagement à respecter le cessez-le-feu. Une fois n'est pas coutume, les dirigeants libanais lui ont fait écho. À Paris, où il était en visite officielle, le président Joseph Aoun a déclaré que tout indique que le Hezbollah n'est pas responsable du dernier tir de roquette. L'armée libanaise a de son côté annoncé avoir localisé au nord du fleuve Litani la position d'où sont parties les deux roquettes tirées vers la Galilée. Elle a ajouté qu'Israël avait pris comme prétexte cet incident pour violer d'une manière flagrante la souveraineté du Liban et la sécurité de ses citoyens. Le premier ministre Nawaf Salam a pour sa part condamné les frappes israéliennes contre des civils et des zones résidentielles où se trouvent des écoles et des universités. La prudence des dirigeants libanais intervient quelques jours avant une visite à Beyrouth de l'émissaire américaine Morgan Ortagus, qui fait pression pour une normalisation des relations entre le Liban et Israël et réclame le désarmement du Hezbollah. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
Nous sommes ouverts aux critiques, mais nous n'apprécions pas le ton, dit le ministre danois des Affaires étrangères. Réaction à la visite hier au Groenland du vice-président américain J.D. Vance. Il s'est rendu sur la base militaire américaine de Pitufik, accompagné notamment de son épouse et du conseiller à la sécurité nationale, alors que Washington répète depuis plusieurs semaines maintenant vouloir prendre le contrôle de ce territoire danois autonome. Hier, J.D. Vance ne s'est pas montré tendre, affirmant que le Danemark n'avait pas fait, je cite, du bon travail pour le peuple du Groenland. Ce n'est pas ainsi que l'on s'adresse à ses proches alliés, rétorque Copenhague. En Guinée, une grâce présidentielle pour Moussa Dadis Camara pour raison de santé. En juillet, l'ex-président avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans les exactions commises au grand stade de Conakry en 2009. Au moins 156 personnes avaient été tuées, des centaines d'autres blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition. Il est midi et 7 minutes à Doha, au Qatar, où l'on va peut-être assister au début d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le groupe armé M23. Alors rien de sûr encore, mais selon nos informations, des délégations des deux camps sont actuellement dans l'émirat, qui continue de cultiver la plus grande discrétion dans ce dossier, comme elle l'avait fait d'ailleurs le 18 mars dernier, lors de la rencontre à Doha entre les présidents congolais et rwandais. À Kinshasa, Pauline Azidi.
À Kinshasa, pour plusieurs diplomates en poste, c'est cette discrétion qui a conduit au succès de la rencontre du 18 mars dernier. Pas d'annonce avant le rendez-vous, seuls quelques proches des deux chefs d'État étaient dans la confidence. Résultat, il a fallu attendre le communiqué du Qatar pour confirmer l'entrevue. Quand une information fuite, le rendez-vous tombe déjà un peu à l'eau, estime en effet un spécialiste du dossier. Une méthode qui tranche avec celle des autorités angolaises qui jusqu'ici étaient en charge de la médiation. Les deux rendez-vous ratés de Luanda en décembre et en mars avaient, eux, été officiellement annoncés à l'avance sur les réseaux sociaux et les parties avaient confirmé ou infirmé publiquement leur participation. Cette fois-ci, des sources confirment que les deux délégations sont bien à Doha, que des échanges avec la médiation qatarienne sont en cours. Enfin, selon nos informations, il y aurait encore des préalables à régler avant de pouvoir réunir autour d'une même table les différents acteurs. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et puis des après-midi de solitude, ce n'est évidemment pas ce qu'on vous souhaite aujourd'hui, mais c'est la traduction d'un titre d'un documentaire diffusé depuis quelques jours maintenant dans les salles de cinéma en France, Tardes des Soledades pour le titre original, un documentaire sur la corrida signé Albert Serra qui nous fait suivre une star de la tauromachie, le péruvien Andrés Rocarrey, un gros succès au festival de San Sebastián où il avait remporté en septembre dernier la Concha d'Or, la plus haute récompense. Elisabeth Le Quéret a vu ce documentaire pour nous.
De lui, on dit que c'est le roi des toreros, le plus doué et le plus téméraire, capable de risquer sa vie à chaque instant dans l'arène. Pendant des mois, Albert Serra et son équipe l'ont suivi au fil d'une douzaine de corridas à Séville, Madrid ou Lima, filmant le face-à-face entre l'homme et l'animal au téléobjectif en plan serré.
Comme les pueblos antiguos, la música.
Ils ont accumulé 600 heures de rush pour capturer l'essence du combat, la parade, la pose de banderille, l'affaissement de la bête, jusqu'au moment où l'on voit dans les yeux du taureau la vie en train de le quitter. Est-ce une performance artistique ? De fait, le film n'est pas dénué d'une forme de beauté glacée, soutenue par l'habit de lumière et la gestuelle chorégraphiée du torero, mais la violence, répétée ad nauseam et captée de façon quasi clinique, nous montre tout autre chose, la brutalité du rituel, révélée dans ses moindres détails, nous faisant basculer de spectateurs à témoins, voire même complices.
Elisabeth Le Quéret du service culture de RFI, merci d'être avec nous sur la Radio du Monde, il est 10h10 à Paris.